du coq à l'âne.
Okay, 3, 2, 1, let's jam.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour et heureux de vous retrouver. Bienvenue dans ce numéro 616. Ouais, déjà 616 du coq à l'âne avec les coqualiens Patrick Faure, salut Patounet.
Ouais, bonjour mon Thierry.
Jean-Claude Hérault qui est là, salut mon Jean-Claude.
Bonjour.
Nous avons Sol Carlus, Michel Roussel qui est avec
bonjour.
Nous.
Bonjour.
Salut Mimi. Et notre invité donc Arnaud Murgia.
Salut à tous.
Bonjour Arnaud Murgia. Alors, Arnaud Murgia, quelle actualité pour Arnaud Murgia en ce moment? Un coup de gueule, oui, un coup de gueule. Bon, c'est une habitude chez lui. Alors, j'ai vu que tu avais poussé un coup de gueule parce que tu trouvais que Central Park était un peu dégueulasse. Tu as noté tout ça, tu avais fait un petit post sur ton Facebook en disant, dommage qu'il ait fallu attendre 10 ans de mandat et 11 mois avant l'élection pour que cette municipalité se rende compte qu'il faut s'occuper de la ville. Hashtag demain Briançon.
Alors, c'est le nom de mon association.
Bah hein. Oui, je me doute.
Non, mais comme tu montes pas souvent à Briançon, je me permets de te le préciser.
Je le savais. Alors, je monte pas souvent à Briançon. De temps en temps, ça m'arrive. J'y vais au moins deux fois par mois. Mais moi, ça m'a pas choqué. Alors, peut-être que je suis passé à côté, j'ai pas fait attention. Mais c'est vraiment ça, à ce point-là?
Oui, c'est dégueulasse.
Bon, d'accord.
Voilà. Bon. Point. Fin de l'histoire.
Bon.
Non, mais honnêtement, Central Park, c'est en plein centre-ville. C'est un spot de deal, ce qui est quand même pas très acceptable. On y a de l'alcoolisme du matin au soir, des mégots de cigarettes partout, des bouteilles pétées, c'est jamais nettoyé, c'est pas acceptable.
C'est un peu comme le parc de la pépinière chez nous, alors.
Ouais, moi, franchement, Arnaud, j'attends mieux de toi. Hein.
C'est mais pas tu peux. C'est que le début de l'émission, tu vas voir le mieux après.
Non, mais c'est pas très politique, ça, quoi. C'est...
Si, si, non, mais en plus de ça, tu rajoutes les migrants dessus. T'as clôturé la campagne.
En fait, c'est une campagne au ras du sol et avec peu de moyens.
Mais non, mais
elle n'est pas encore commencée, la campagne.
Non, je ne suis pas encore candidat de toute façon. Donc, tu vois.
Ah, ouais.
Mais cela dit, et très franchement, on en rigole, mais l'entretien de la ville, la propreté, c'est des choses qui sont très importantes pour les riverains et on peut bien attendre que les habitants attendent que ça soit fait dans des mesures acceptables, si j'ose dire. Et je crois que quand ça va pas, il faut le dire. Voilà.
Bon. Pour que tu portes le sujet, c'est qu'il y a eu des remontées au niveau de Briançon.
Mais bien sûr, si tu veux, il faut s'imaginer Central Park, que tu as des commerçants, les gens viennent plus tellement c'est dégueulasse. Au-delà du fait que c'est un endroit qui est assez délabré, parce que c'est vieux, le sol, ça fait des trous, etc. C'est pas très bien entretenu, ça mériterait d'être très largement refait. Ça fait partie des points qui, très franchement aujourd'hui, pour un centre-ville, c'est pas accueillant et c'est pas l'idée que je me fais d'une ville touristique. Voilà, point barre.
Oui, parce que alors tu avais mis le doigt là-dessus, mais j'ai vu qu'il n'y avait pas que Central Park. Tu pointais la vieille ville, la rue Pasteur, les abords du télécabine. On a l'impression que
non, c'est pas moi. En l'occurrence, c'était des personnes qui derrière mettaient ça, mais
qui rajoutaient sur ton poste.
Cela étant dit, oui, je le dis volontiers, je l'assume. Je trouve que Briançon n'est pas une ville dans l'état dans lequel elle devrait être en termes de propreté et d'entretien. Enfin, regardez l'état des routes, l'état des trottoirs. Enfin, je veux dire, c'est minable. Donc à un moment, il faut le dire.
Ceci étant, moi, j'y suis allé dernièrement. Ce que je constate, c'est quand même, c'est une ville qui se métamorphose.
Ah, complètement,
avec un centre-ville qui est en plein. Enfin, il y a je sais pas combien de logements en construction, des travaux partout.
Ouais. Et vous trouvez ça joli, vous?
Mais je sais pas, c'est une ville qui bouge.
Ah ben non, mais c'est important de savoir. Hein.
Non, mais il faut. Alors, que ce soit sale, que ce soit effectivement. Non,
attendez,
à un moment donné.
Si vous voulez, on parle du cœur de ville, il n'y a aucun problème.
Oui.
Déjà, c'est une ville qui se métamorphose. Excusez-moi, on a bradé du foncier à des promoteurs. Bon. C'est bien, qu'on me dise pas que c'est un projet structurant, parce qu'en l'occurrence, c'est un projet de promotion immobilière, dans lequel on a des bâtiments qui ont des vis-à-vis d'1,50 m entre eux. Très franchement, ce n'est absolument pas l'urbanisme et l'aspect architectural et paysager que j'attendais pour un cœur de ville, et qu'on ne me dise pas que c'est un projet structurant. Parce que quand vous faites un projet dans lequel vous mettez uniquement des logements, vous mettez un cinéma, alors qu'on aurait eu besoin d'un marché couvert et qu'on aurait eu besoin, à mon sens, d'une autre urbanisation, d'une autre architecture, voilà, qu'on ne me dise pas que c'est un projet structurant. Alors oui, la ville se métamorphose. Très franchement, ce cœur de ville-là, eh ben, je vais vous dire, je m'en serais passé bien volontiers, parce que la réalité, c'est qu'on va
le... Moi, j'ai envie de te dire, mais que fait l'opposition? Parce que...
L'opposition, elle est dans la majorité, maintenant.
Ah bon? C'est nouveau, ça. C'est-à-dire, il n'y a plus d'opposition à Briançon.
Mais, alors, non, mais, c'est, non, mais ça fait le lien entre les deux sujets. Mais non, mais ça fait le lien entre les deux sujets.
Ça, c'est intéressant.
Parce que le seul truc qui était intéressant, le seul truc qui était intéressant, si vous voulez, dans l'histoire, dans cette histoire de Central Park, qui est un petit fait dans l'actualité briançonnaise, mais le seul truc qui était intéressant, c'est la petite opération de communication montée par le directeur de cabinet du maire et par mon ami président du groupe de l'opposition, et qui monte une opération de communication en commun.
C'est
non, mais si, monsieur Romain Grispin, pas de problème.
Mais voilà,
ils sont maintenant dans une posture, ils votent le budget ensemble, ils votent pour tout, ils font des opérations de communication ensemble pour me taper dessus. Bon, bah maintenant, au moins, c'est clair. Le truc est. Au moins, je le vis bien, comme dans une émission où on rigole un peu, on peut se dire les choses.
Oui, oui,
bon, au moins, on ne dira plus, il y a deux listes à droite. Non, maintenant, il y a une liste à Gérard Fromm et une liste d'opposition que j'incarne, point barre, fin de l'histoire.
Donc,
voilà, bon, je dis. Après, chacun. Je trouve ça.
C'est Romain.
Hein, je trouve ça un petit peu baroque, si vous voulez, dans
t'as
le sens
pensé,
quand on a passé 10 ans à se présenter aux élections contre Gérard Fromm et qu'on se retrouve frappé par une sorte de ce que j'appelle l'amour instantané, vous voyez, c'est-à-dire que du jour au lendemain, on se dit finalement je me suis trompé pendant 10 ans, j'aime Gérard Fromm.
Ah ouais, mais bon, que les émissions qui changent pas d'avis.
Oui, exactement,
et c'est ça
vrai.
Leur réussit.
Ça je sais pas. Mais enfin, en tout moi j'essaie d'avoir une colonne vertébrale. Ma question, elle a jamais été ad hominem contre Gérard Fromm, avec qui je siège au conseil départemental.
Ni Romain Grispin d'ailleurs.
Mais non, le moins qu'on puisse dire. Mais cela étant dit, j'ai un désaccord politique profond sur la gestion de la ville, que je trouve manquer absolument d'ambition, et que je trouve sur bien des sujets être malheureusement un échec. Voilà, je l'assume, je le dis. Donc oui, il y a une opposition à Briançon, et je compte bien qu'elle continue.
Tu es le seul dans l'opposition, donc pour toi aujourd'hui.
Oui, mais pas élu.
Oui, mais c'est une évidence.
Tu n'es pas au conseil municipal.
Non, tout à fait.
Non, bien sûr. Donc il n'y a plus d'opposition au conseil municipal.
Non, mais c'est une évidence. Enfin, c'est un fait, je veux dire, c'est même pas une analyse.
Donc il n'y aura qu'une liste.
Est-ce que tu veux dire par là que... Je me fais l'avocat du diable. Lorsque tu es dans l'opposition, tu ne dois jamais être d'accord la majorité.
Mais non, c'est pas ça. Il faut avoir un regard critique, mais pour avoir un regard critique, il ne faut pas être dans une situation d'amour béat où on dit que finalement, tout ce qu'on a dit par le passé, ben en fait, on ne le pensait pas. C'est-à-dire que toutes les campagnes électorales qu'on a fait contre Gérard Fromm, on dit, ben non, finalement, je viens de me rendre compte qu'en fait, tout ce qu'il a fait, c'est absolument fantastique. Et c'est un peu compliqué de se présenter en même temps comme l'héritier idéologique d'Alain Béroux et en même temps de découvrir que finalement, tout ce qu'a fait Gérard Fromm pendant 10 ans est fantastique. Ça me paraît un peu.
Mais il dit ça il dit ça,
mais
j'ai pas vu ça.
Non.
Il dit que. Vous voyez, vous passez pas cette temps, Brianson.
Je vous porte le clé, là. Non, mais franchement.
Excusez-moi, à un moment.
Il n'entend pas tout.
Tu as été.
Arnaud n'entend pas tout.
Tu as eu un certain nombre de fonctions. Comme moi, quand tu commences à approuver les orientations budgétaires, à voter le budget, à voter toutes les délibérations, et à trouver finalement que. Et quasiment à te réunir sur toutes les choses.
Là, je suis d'accord avec toi. Ce qui est important, c'est les orientations budgétaires.
Je crois même d'ailleurs que, quand on parle de l'autre côté, sur votre antenne d'ailleurs, le maire de Briançon a tendu la main pour faire liste commune à Romain. Bon, mais très bien. Honnêtement, ça m'amuse.
C'est dans l'intérêt des Briançonnais, je suppose.
Mais j'espère pour eux, tant mieux. Non, mais attendez, ça me paraît logique. Chacun sa vision. Enfin, voilà, au moins c'est dit, on aura commencé en forme.
Oui, alors on reste dans le secteur du Briançonnais, là. Avec donc Briançon, lauréate à l'appel, la manifestation d'intérêt, réinventons nos cœurs de ville. Je ressors ça parce que tu viens d'en parler en disant qu'il y avait une mutation. Ouais. 222 villes en France avaient participé en décembre dernier et la ville fortifiée a donc été retenue parmi 53 autres. Elle pourra ainsi bénéficier de l'ingénierie et l'expertise de l'État et de ses opérateurs pour son projet de réhabilitation de l'ancienne caserne Berwick de 1600 m2 en y incorporant des activités économiques, commerciales et culturelles. 30 000 euros seront débloqués par l'État pour faire avancer ce projet. C'est bien ça.
Je ne suis pas sûr que ce soit 30 000 euros, je crois que c'est plus. Hein.
D'accord.
Je crois que c'est plus.
C'est plus.
Le projet Cœur de Ville, ça a été lancé par le ministère de la Cohésion des Territoires. Mmh. Je crois que maintenant c'est porté par Sébastien Lecornu.
C'est
quelqu'un que j'apprécie
Isaac.
Beaucoup d'ailleurs et qui est à mon avis un très bon ministre. C'était le chef de cabinet de Bruno Le Maire, et j'ai eu l'occasion de travailler avec lui il y a quelques années dans une autre vie. C'est un chic type. Et je crois que le fait que le gouvernement se rende compte qu'il y a des centres-bourgs, moi c'est un sujet, vous le savez, sur lequel je travaille beaucoup au titre du CAUE. On a travaillé à Ribier, par exemple, sur la réhabilitation du centre-bourg.
Oui, c'est vrai, parce qu'il est aussi président
du CAUE. On a travaillé à Châteauvieux sur la réhabilitation.
Cumulard,
On le fait maintenant à Saint-Chaffré, fonction bénévole, cher ami. et c'est des sujets qui sont extrêmement importants parce qu'on pense souvent... En gros, politique de l'État, centre-ville, c'est soit les métropoles, soit les quartiers. Mmh. Et on oublie, en fait, que, vous savez, cette France périphérique moyenne, cette France des villes de 5 000, de 3 000, de 10 000, de 20 000 habitants, dans laquelle on a exactement les mêmes problèmes, même de 40 000.
Puisque Gap est éligible.
Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Non, mais attends, je vais dire du bien de Gap pendant l'émission.
Ah,
je m'y suis engagé.
Pourquoi pas.
Je vais même dire allez les rapaces, mais pas tout de suite parce qu'il faut
même
pas.
Mais d'accord.
Il faut que les Briançonnais restent à l'antenne, parce que sinon après, ils vont vouloir.
Mais l'équipe de France aussi, je peux dire.
mais plus sérieusement. C'est des sujets qui sont extrêmement importants et c'est bien que l'État vienne là-dessus. Donc je le dis volontiers là-dessus, bravo le gouvernement. Vraiment, en tout cas sur ce projet-là, je le dis volontiers.
D'accord. Et donc bravo Gérard.
Sur ce sujet-là. Ben
oui.
Mais assume.
Ben oui.
Assume-le.
Non, je sais pas, moi je te pose la question.
Mais non, mais attendez, c'est pas compliqué. Il y a deux villes dans le département qui sont sélectionnées, il faut s'en féliciter.
Bien sûr, dire, bien sûr.
Super,
dans le 04, il y a Digne et Manosque.
Aussi. Ouais. Autre sujet, le grand débat, la contribution de la majorité départementale qui plaide pour un droit à la spécificité rurale et montagnarde. Ouais. Ça veut dire que ça n'existe pas aujourd'hui, la spécificité.
Non, ça veut pas dire que ça n'existe pas. Ça veut dire qu'on s'aperçoit que malgré la loi Montagne 1, malgré l'acte 2 de la loi Montagne, on a aujourd'hui déjà des dispositions qui sont foulées aux pieds. Aujourd'hui, souvenez-vous l'année dernière, l'école de Vars. C'est un sujet qui me tient à cœur parce que j'y ai un peu travaillé sur ce dossier. On va vous expliquer, malgré la loi Montagne, malgré les textes de loi, qu'on va supprimer les écoles dans les petits villages et puis on va les rassembler dans les cœurs d'intercommunalité. C'est-à-dire, en gros, y a une école à Guillestre et ça suffira bien. En gros, c'est un peu ça qu'on vous tient comme discours. Mmh. Et ce qu'on essaie d'expliquer dans cette contribution, c'est que... il ne peut pas avoir moins de droits pour des habitants juste parce qu'ils sont moins nombreux, et que ces habitants-là, ils ne demandent pas plus de droits, mais ils ne demandent pas en avoir moins. Et que la pente sur laquelle on est engagé depuis 10-15 ans, c'est toujours moins d'hôpital, c'est toujours moins de postes, c'est toujours moins de gendarmerie. Puis, vous savez, on met ça sous l'étiquette et le chapeau de la rationalisation. C'est-à-dire, en gros, le terme rationalisation qui est très moderne vous fait comprendre qu'avec moins, en fait, vous aurez mieux, mais ce n'est pas vrai.
Enfin, c'est ouais, juste pas vrai. Moi, je voudrais pas te couper, Arnaud, mais quand même.
Je tiens à dire
que la droite a été au pouvoir, la gauche a été au pouvoir, le centre droit actuellement est au pouvoir, et c'est toujours les mêmes politiques. Et ce qui est étonnant, c'est que toi, qui es de droite, tu es les Républicains, fait honorable, vous avez fait des politiques exactement ce que tu es en train de dénoncer. Vous avez mis en place pendant des mois des années cette politique.
Vous découvrez quelque chose
qui est quand même incroyable, c'est la spécificité des territoires ruraux et de montagne. On en parle depuis 30 ans de cette spécificité.
Je vais te dire, déjà, moi, excuse-moi de le rappeler, je suis de l'école Patrick Ollier, qui a toujours considéré, et je crois qu'il avait raison, qu'on défend avant tout la montagne, et après, on se demande si on est de droite ou de gauche. C'est le principe de l'Association des élus de la montagne. Il est respectable, je crois qu'il est défendu par un certain nombre d'élus.
Dans les deux Savoies, il fonctionne comme ça.
Et je crois qu'il n'y a pas un endroit où cette idée vit mieux qu'au conseil départemental dans la majorité actuelle, première chose.
Oui.
Bon. Deuxième chose, c'est que, oui, tu as raison. Alors, tu dis la droite, vous avez détricoté, machin. Enfin, excuse-moi, prenons le quinquennat à Hollande, c'est pas mal non plus.
Oui, mais j'ai dit la droite et la gauche.
Ça veut dire quoi? Non, mais ça veut dire
quoi?
Tu
as dit la droite et la gauche.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut continuer à se battre. Alors, soit on se morfond, mais aujourd'hui, que ça soit sur les questions de désenclavement, je sais pas si on en parlera, et vous avez vu, je crois, un peu ce que le président Jean-Marie Bernard a fait avec un certain nombre d'élus derrière lui, que ça soit sur les questions de santé, que ce soit sur les questions de services publics, que ça soit sur les questions mécanismes de péréquation institutionnelle de dotation, aujourd'hui, il y a des combats qui sont encore à gagner pour défendre nos territoires.
Dis-moi, Arnaud, tu viens de citer la santé. Moi, c'est un secteur que je connais bien.
Bien sûr, bien sûr.
Bon, je peux te dire, je le suis. On est en train de travailler au niveau régional, ce qu'on appelle la fabrique santé, où on va monter des projets, notamment dans les deux départements alpins. Mais sur la santé, moi, j'entends rien des hommes et des femmes politiques dans ce département. On est dans un désert médical qui va s'aggraver, qui s'aggrave tous les jours.
Alors,
on a 10 ans devant nous qui vont être dramatiques. Donc tu parles de la santé, mais qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous faites?
C'est super.
C'est ça que je voudrais savoir.
Avec plaisir, je te réponds. Écoute, moi, pas plus tard qu'il y a 3 semaines, j'étais au conseil départemental avec nos services, en train de travailler avec une entreprise que je ne citerai pas, qui aujourd'hui travaille à installer les premières maisons de santé connectées. Maison de santé connectée, ça veut dire que tu crées une maison de santé dans laquelle tu as un bloc de consultation qui est entièrement connecté, ce qu'on pourra faire désormais qu'on a bouclé l'installation de la fibre maintenant dans les 24-48 prochains mois. Et en gros, ça veut dire que, un, tu peux transmettre en direct ton dossier médical. Alors, il y a un gros enjeu là-dessus sur le dossier médical partagé. Et ça veut dire aussi, accessoirement, qu'on peut imaginer que demain, tu emmènes ton gamin en consultation dans ta maison de santé connectée et que tu sois en rendez-vous directement avec un spécialiste spécialiste à Necker. Alors, non, ça, c'est des sujets sur lesquels je bosse.
C'est très bien. C'est très bien. Mais sauf que je te pose une question.
Ça existe déjà, ça.
Ça existe déjà. Non, mais il faut le développer.
Bien sûr, bien sûr.
Non, mais
on passe ça dans les bras. Je te pose une question que tu peux avoir avec un médecin.
Bien sûr, moi.
Je te pose une question très concrète. Ça m'est arrivé le week-end dernier.
C'est une alternative.
Notre centre dentaire mutualiste à Gap recevait les urgences dentaires. On a été complètement envahi de patients. On ne savait plus comment gérer. Y compris, on a eu un début d'émeute. Comment on fait ? Parce que ce n'est pas avec le système dont tu viens parler, sur lequel je ne suis pas du tout opposé, qu'on va soigner les gens, notamment, qui ont des rages de dents, qui ont des problèmes importants de dents.
Ouais, mais tu es obligé de commencer par quelque chose.
Moi, sur le sujet de la santé, je me permets quand même de rappeler à tout le monde...
Il y a la prévention, malheureusement.
Là où il faut se battre, c'est pour ne pas perdre de service. Mais enfin, sur la question... des urgences notamment, puisque c'est de ça qu'on parle. Oui. Excusez-moi, allez à la Timone à 20h, vous allez voir ce que c'est. C'est encore plus le foutoir que chez nous. La réalité, c'est que l'hôpital en France, il va mal.
Oui.
Et que les urgences en France vont encore plus mal. Mmh. Bon, alors, est-ce qu'il faut attendre quelque chose du plan hôpital qu'a présenté le président de la République il y a quelques mois, je crois que c'était en fin d'année dernière, je l'espère, mais en tout cas, il faut bien se dire quelque chose. Vous êtes, nous vivons dans un pays dans lequel les grands équilibres ne fonctionnent plus. Et ça amène les grands équilibres, ça veut dire tout concrètement qu'on vit dans une France qui a été créée avec 3 actifs pour un retraité, et vous avez maintenant 1,2 actifs pour un retraité. Et on a gardé le même système de retraite, le même système de sécurité sociale.
On n'a plus d'enfants aussi.
Donc, ça veut dire que concrètement, vous ne pouvez pas, à un moment, si vous ne transformez pas le pays, attendre que vous ayez toujours le même niveau de service avec des déficits toujours plus grands. Et on vit ça. Et vous savez bien que... quand on est dans cette situation-là, on taille toujours d'abord là où c'est le plus facile. Mmh. Ben c'est chez nous, ben bien entendu, parce qu'on nous, on ne nous entend jamais. Et je crois que tout cela, d'ailleurs, ça a des résonances avec la crise des gilets jaunes, la crise sociale profonde qu'on a vécue ces derniers mois. Cela étant dit, une fois qu'on a dit ça, il faut continuer à se battre, et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des résultats. On me fait signe de m'arrêter, donc je me tais. Voilà.
Sur ces bonnes paroles, je dis qu'on va revenir, vous ne bougez pas. Le retour du coq à l'âne dans un instant. Avec notre invité aujourd'hui, c'est Arnaud Murgia. À tout de suite.
Du coq à l'âne.
Ok, 3, 2, 1, let's jam.
Retour autour de la table de ce numéro 616 du Coq à l'âne avec notre invité Arnaud Murgia et les coqualiens Patrick Faure, Jean-Claude Hérault, Michel Roussel. Alors... Demain, Briançon. On va parler des municipales, tiens. Allez, un petit mot vite fait. Quel pourcentage, selon toi, pour que tu deviennes l'an prochain maire de Briançon ?
Joker. Tu sais pourquoi Joker ? Parce que je m'attache pas au... Déjà, je suis pas un parieur, de manière générale. C'est un des vices que j'ai pas. Et en plus de ça, j'essaie de travailler. Et puis après, tu sais... Les élections, oui, enfin, j'ai eu la chance d'en faire quelques-unes, tu en gagnes, tu en perds.
Tu es suffisamment actif aujourd'hui sur le Briançonnais et tout le secteur pour savoir, enfin, j'imagine, pour avoir une petite idée derrière la tête.
Mais,
non
mais pour espérer un bon pourcentage, ce que je te souhaite, moi.
C'est gentil.
Je suis pour le
je
combat.
Peux, je peux te mettre sur ma plaquette
si non, mais
si je me déclare candidat.
Jean-Claude, il dit ça à tout le monde. Hein.
Ah bon, ça va alors.
Non, mais moi, je suis pour le combat politique.
Il est bon public.
On est dans une démocratie. C'est une richesse d'avoir ce débat politique et ce combat politique.
Bien sûr.
Mais pour réussir, il faut, je le dis souvent, je l'ai dit à Pierrel l'autre jour, je te le dis à toi aussi, il faut une équipe. Il ne faut pas un seul homme ou une seule femme, il faut une équipe.
C'est papy qui parle et papy connaît le boulot.
Oui, parce que j'y suis allé plusieurs fois.
Je sais.
Il faut une équipe, une vraie équipe.
Il n'a jamais été élu, mais déjà. Plusieurs fois.
Non, si, j'ai été élu,
mais dans la minorité. Bien sûr.
Dans la minorité. Non,
il a testé tous les défauts. Il faut bien l'écouter.
Non, il faut une équipe, mais pas une équipe qui soit là éphémère, une vraie équipe qui soit avec toi. Qui soit avec toi du début jusqu'à la fin, et si tu es élu, qui te suive pendant la durée du mandat, c'est pas gagné. Ça soit dans beaucoup de majorités.
Ouais.
Et il faut un projet, un non, vrai a, projet.
Justement, c'est pour briller, c'est le point de départ de ma réflexion.
Face à la liste qui risque à fond, qu'est-ce que tu fais, quoi?
Je me soucie pas tant de ça. J'essaie de construire les choses de manière intelligente. J'ai lancé une association qui est un rassemblement, je crois, de beaucoup de sensibilités. Vraiment. Je fais ma première réunion publique et que j'ai la présence à la fois d'André Gilitos et de Raymond Sirio, qui ne sont pas franchement des gens qui partagent mes convictions politiques initiales et qui se disent « Ok, le rassemblement...
Oui, » Raymond Sirieu est à gauche.
Raymond Sirieu était tête de liste PS en 2008 à la mairie.
C'était un adjoint
Et André était le premier adjoint de Robert de Caumont.
Robert. Bon,
je me dis, c'est déjà un premier point de départ. Le rassemblement, on est une trop petite ville pour à un moment s'arrêter à des clivages. Première chose. Deuxième chose, j'ai lancé il y a 3 semaines maintenant une consultation des Briançonnais. Pour essayer de recueillir tout simplement le ressenti des gens sur leur ville, sur leur quartier, sur leur rue. J'ai déjà plus de 250 personnes qui y ont contribué, je trouve que c'est pas mal. Mmh. Et je vais le faire jusqu'au mois de mai, aller à la rencontre des habitants, en faisant du porte-à-porte, en faisant des réunions, tout simplement pour dire voilà, vous avez la parole, c'est maintenant. Parce qu'après, faut rentrer dans une logique de conviction et c'est plus le moment. Bon, donc une fois que cette phase sera passée, il y aura... justement le moment du projet qui viendra, et derrière, la question de la candidature, du projet, de l'équipe. Mais je crois qu'il faut y aller tranquillement, posément, et moi la seule chose qui m'intéresse, très franchement, c'est où on peut amener la ville. Est-ce qu'on est satisfait de Briançon, de ce que c'est aujourd'hui? Moi je pense que ça devrait être le fleuron des Alpes du Sud. Je pense que cette ville n'est pas au rendez-vous de son histoire, très franchement. Je pense que ça devrait être une ville qui rayonne, qui donne l'exemple sur un certain nombre de domaines, que ce soit dans le domaine touristique, dans le développement durable. Je crois qu'elle n'est pas au rendez-vous de son histoire. Elle n'est plus au rendez-vous de son histoire. Voilà. Donc je crois qu'il faut avoir un grand projet consistant à dire aux gens, voilà où on peut vous amener. Voilà ce qu'on peut faire ensemble. Voilà si on met un peu nos énergies en commun, où on peut aller. Et après, chaque chose, on s'entend. Après, il y aura le moment de la candidature, il y aura le moment de l'équipe, de la campagne.
Ceci étant, il faudra que tu tiennes compte aussi du niveau d'endettement de la ville.
Bien sûr.
Parce que c'est une ville endettée.
Vous savez que c'est...
Je ne sais pas combien vous êtes par habitant.
On va arriver à 50 millions d'euros à la fin du mandat de stock de dette. 50 millions divisé par 12 000.
Mais oui.
Ça doit faire...
Tu vas sur le site internet,
c'est facile. Pas de bêtises, ça doit faire encore 5-6 000 euros par habitant.
Pas tant, c'est énorme.
Bon, enfin, en tout cas, c'est une des villes les plus endettées de France.
Donc, c'est dur de faire un grand projet.
Mais là-dessus, il y a un vrai sujet.
Avec une ville endettée.
Parlons-en, il y a un vrai sujet. Aujourd'hui, je pense que le sujet de la prochaine mandature, il est très simple. C'est la question du réétalement de la dette. Mmh. Je le porterai pendant la campagne électorale, mais je crois que c'est le sujet essentiel. Pourquoi ? Il va rester, au début du prochain mandat, 50 millions d'euros de dette à payer jusqu'en 2032. C'est-à-dire à peu près 5 millions d'euros par an répartis entre le capital et les intérêts. Donc la seule question, c'est est-ce qu'on a 5 millions à rembourser par an jusqu'à 2032 ou est-ce qu'on garde ces 50 millions d'euros de dette mais qu'on essaie de les étaler jusqu'à 2040-2045? Parce que si vous vous enlevez, si ce n'est qu'un million d'euros chaque année qui pèse sur les finances publiques de la commune, ça veut dire que c'est 1 million d'euros que vous allez investir en plus.
Tu vas aller chercher où les économies sur...
Non, mais je ne parle pas des économies, je parle du réétalement.
Mais si tu fais du réétalement, ça veut dire que tu continues à fonctionner de la même manière et à avoir du déficit.
Mais non, pas du tout.
Parce qu'aujourd'hui, tu as un déficit de 50 millions.
Non, pas du tout.
D'accord.
Non, mais la question de la dette, c'est... La longévité de la dette, c'est le seul truc qui est intéressant.
Oui, ça, c'est de la négo.
Une collectivité, elle ne meurt pas. Donc, par la force des choses, le fait qu'elle soit endettée, c'est pas très grave. La seule question, c'est son niveau d'endettement. Donc, la seule question, c'est aujourd'hui, vous remboursez 5 millions d'euros par an. Donc, soit vous attendez 2032 sans rien faire, et à partir de 2033, vous retrouvez 5 millions d'euros par an de marge de manœuvre. Mmh. Sauf qu'en 2032, vu déjà la ville dans l'état dans lequel elle est, en 2032, j'ose même pas imaginer. Donc la question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, plutôt que de rembourser 5 millions d'euros par an, vous arrivez à rentrer dans une logique de renégociation, non pas des taux, parce que les taux, vous ne pouvez pas les renégocier pour les collectivités locales. Parce que les lois qui encadrent la renégociation des taux pour les particuliers, qui limitent les indemnités actuarielles, sans rentrer dans le détail, qu'on peut infliger aux gens, ne s'appliquent pas aux collectivités. Donc en gros, plus les taux sont bas, plus les indemnités augmentent et ça coûte extrêmement cher. Donc les taux, ce n'est pas très grave et ce n'est pas le plus grave. La question, c'est vraiment la durée, parce que si vous remboursez, si ce n'est que sur 10 ans de plus, ça veut dire que vous récupérez de la capacité d'autofinancement, vous récupérez de l'oxygène pour investir. Je pense que c'est le grand sujet de la mandature et je pense d'ailleurs que très franchement, ça aurait dû être tenté avant.
Parce que si tu veux faire du développement, à mon avis, le rééchelonnement, il ne va pas suffire. Parce que bon, tu as des partenaires en face, ils acceptent ou ils n'acceptent pas. C'est aussi des...
Il y a la question du niveau des taux aussi. Est-ce que dans ton projet que tu vas élaborer...
Tu négocies pas les taux.
Non, mais les taux de taxes prélevées aux citoyens briançonnais.
Non, mais les taux et l'apostrophe...
Non, mais c'est une évidence.
C'est
une évidence. Vous avez l'un des taux.
Est-ce que les impôts vont augmenter à Briançon?
Non, c'est important.
Ils peuvent pas augmenter, ils sont quasiment au niveau max.
Eh ben oui.
Donc de toute façon, par la force de la loi, ils sont déjà à un niveau qui ne permet quasiment plus d'élever. Vous êtes à 42%, c'est un des taux les plus élevés de France. Bon. Donc ça veut dire que c'est le seul sujet. Le seul sujet, un, pour arriver à redonner un peu de pouvoir d'achat aux gens et à arrêter avec cette espèce de dumping foncier qui fonctionne dans tout le Briançonnais, où on a une perte de population parce que ça coûte trop cher. Et d'autre part, surtout, pour regagner de la capacité d'investissement. Je dis pas que c'est facile, parce que si c'était facile, ça aurait déjà été
fait.
Oui,
mais c'est de ni de droite.
Je crois qu'on peut amener l'État, le ministère des Finances à nous aider dans un tour de table avec les banques.
Voilà. Est-ce que la perte des habitants, à Briançon et un petit peu partout, c'est pas dû aussi peut-être au désenclavement qui n'a pas lieu?
Non,
est-ce que ça peut avoir un rapport? Je
Y a deux sujets. Le premier, c'est que aujourd'hui, quand le maire,
pénible,
quand le maire, il explique. Excuse-moi, je m'arrête.
Alors attends, parle bien. Quand le maire, Bruno le maire,
non,
on parle bien,
non,
s'il te
on
plaît.
Peut parler de mon ami Bruno avec plaisir. Le maire de Briançon, c'est très amusant. C'est lui qui a foutu en l'air de Caumont. Et il tient aujourd'hui exactement le même discours que lui. Un vieux discours des années 90 consistant à expliquer que la croissance urbanistique amènera la croissance démographique qui amènera la croissance fiscale. C'est ça son projet cœur de ville. Ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas de croissance démographique si vous n'avez pas de projet de développement d'emploi. Les gens, ils viennent habiter dans une ville s'ils trouvent un travail. Donc, première chose,
logique.
Il faut un projet de développement économique. Bon, on peut en parler, mais ça prendrait 2 heures, donc je ne développe pas. Le désenclavement, il est essentiel. Le désenclavement, il est essentiel. Pour les habitants, mais là on touche surtout, à mon avis, au moteur touristique.
Mmh.
Au moteur touristique.
Bah, c'est-à-dire que le moteur touristique.
Mais bien sûr qu'il est essentiel. Il y aurait tant de choses à dire d'ailleurs.
Arrête de dire qu'il y aurait tant de choses. On n'a pas 3 heures.
Mais c'est pour ça. Mais il est essentiel parce qu'à un moment, déjà, il faut développer l'existant, c'est-à-dire que la connectivité avec Turin, avec Milan, il faut l'améliorer, la rendre plus fluide, mais surtout, il faut quand même bien se dire, et c'est tout le sujet qu'on essaie de développer avec Jean-Marie Bernard, bah que vous avez 30 à 40% minimum de votre clientèle qui vient du Sud. Et donc, qui se tape les embouteillages à Tallard, derrière à Chorges, et derrière toute la route. Et la route qu'on a, il faut avoir l'honnêteté de se dire qu'elle n'est tout simplement pas au gabarit du flux de circulation. La faute, c'est rien.
Je suis pas le juge.
Ah ben
si.
Mais la faute à qui?
Attends, tu rigoles ou quoi? T'es pas juge? Depuis tout à l'heure, t'es en train de descendre en flèche.
Non, je dirais
la faute en disant que ce qu'il fait, c'est de la merde, et t'es pas juge.
Alors déjà, je t'ai pas dit ça, cher ami. Je te laisse la paternité de ces propos.
C'est la faute à qui? Parce que
je crois. Non mais si.
Attends.
Si nos routes sont dans ces états.
Oui.
Parce c'est vrai vers Grenoble. Gap Grenoble, c'est pareil.
C'est pour ça.
Mais
Gap Grenoble,
c'est parce qu'on nous a bassiné. On nous a bassiné pendant des années avec l'autoroute. Du coup, on n'a pas modernisé nos routes.
On est d'accord.
On a fait n'importe quoi dans ce département.
Bon, première chose.
Alors moi, la faute à qui? On peut pleurer sur le monté, l'arrivée des touristes tous les matins. Si on n'arrive pas à améliorer nos routes, à faire des zones de déplacement.
Deux choses.
Il y a des touristes.
Tu as vu la Roche de Rame? La Roche de Rame, tu vas y passer tout à l'heure à la Roche de Rame. C'est normal qu'on passe dans un village comme ça.
Deux choses.
Pas tous ensemble.
Deux choses. La 75, c'est en passe d'être réglé. Je vous rappelle quand même les montants important d'investissement avec le conseil départemental de l'Isère sur les deux aspects de la 75, qui va être vraiment modernisé, et c'est très bien.
Ouf.
La 94, c'est pas réglé, c'est le sujet majeur. En deux choses. Le premier, il faut obtenir, dans les discussions autoroutières de prolongement des concessions, comment il a été construit le tunnel de Toulon. Vous avez déjà pris le tunnel à Toulon. Il a été construit parce qu'avec 4 ans et demi, je crois, de mémoire de prolongation de la concession d'Escota, ils ont injecté je ne sais plus combien de centaines de millions d'euros.
Les travaux ont duré des années.
Qu'ils ont trouvé de l'eau. Ouais. Bref, tout ça pour dire qu'on peut aujourd'hui discuter avec Escota d'une prolongation de l'autoroute. Et moi, je pense que c'est la bonne solution. Ça, c'est le premier sujet.
Non, on recommence.
Il faut aller jusqu'à la vallée de l'Avance.
Attends, excuse-moi.
Pour un tour.
Parce que bon.
Tu monopolises
l'antenne depuis tout à l'heure. C'est insupportable.
Vous m'avez invité. Excusez-moi.
La prochaine fois,
tu ne m'invites pas, tu fais ton émission.
Il n'a même pas encore pu. Donc, on passe à côté
de sa commune et on fait l'arrivée de l'autoroute. Au moins, on s'évite le.
Le truc là, la sortie, on la met là. À l'étrée, on la met. c'est tout droit.
Non, mais Jean-Michel Arnaud n'est pas d'accord avec cette solution.
Oui, mais moi, je ne veux pas rentrer dans un débat sur la commune de Lettré parce que j'aime bien le maire de Lettré, c'était un copain. Et un collègue et un copain. Bon, donc première chose.
Ça tombe bien, on est d'accord.
Ah, c'est Rémi. Voilà, tu vois,
c'est Rémi.
Mais qui est un bon conseiller départemental et je crois qu'il faut le dire. Bon, comme ça, au moins, vous ne direz pas que je suis un type sectaire. Je sais dire du bien des types qui ne partagent pas mes idées, mais qui sont des types bien. Première chose, donc, il faut que cette autoroute, elle elles finissent à l'avance. Au moins, vous vous arrêtez avec tout le bouchon de Tallard. Première chose. Deuxième chose, sur la 94 entre Chorges et Briançon, c'est pas possible de garder pendant les 20 ans à venir une route avec ce gabarit-là. Mais il faut absolument des passages à travaux et des créneaux de dépassement.
D'accord.
Et ce qu'on va faire sur la 75, il faudra le faire sur la 94. C'est la responsabilité de l'État.
Mais ce que je ne comprends pas, et d'ailleurs avec Jean-Claude, on se posait la question, on se disait, mais on a l'impression qu'aujourd'hui, dans notre ZAP, on a découvert l'eau chaude, ou l'eau tiède, hein, ça dépend. On se dit, il faut faire une pétition pour désenclaver les Hautes-Alpes. D'un seul coup, on n'en parlait plus, c'était tombé comme ça. Et puis, hop, d'un seul coup, ça revient. Mais qu'est-ce qui s'est passé ?
Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que
qu'est-ce qui s'est passé ?
Nous nous sommes dit, et je crois que c'est une bonne chose, qu'à un moment, il fallait remettre le sujet sur la table avec tout le monde. Parce que on peut attendre, il fallait y aller. Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir des discussions déjà dans le plan autoroutier de l'État. Donc, c'était le moment aussi d'agiter un petit peu le chiffon rouge en disant on se positionne, première des choses. Et deuxième chose, ce qu'on est en train de faire sur la 75, qui est départementale, doit servir d'exemple pour relancer le débat sur la 94, qui est nationale, et sur le reste. Parce qu'à un moment, la question n'est pas juste de faire une pétition ou de lancer le débat. La question est d'essayer, à un moment, d'obtenir des résultats de la part de l'État.
Ouais. Bon.
Moi, j'ai quelqu'un
pour sur le soleil.
Mais non, il y a rien de nouveau. Mais c'est ça qui est.
Moi, j'ai quelqu'un pour porter le dossier. Ah,
d'accord, vas-y.
Pierre Bernard Leymon. Moi, je trouve que ça serait une bonne idée.
Tu l'as interviewé ?
Non, mais moi, je pense que il maîtrise bien le sujet.
Oui,
non,
c'est vrai, c'est vrai.
En tout cas, il le connaît.
Il le connaît bien. Hein.
Voilà.
Non, mais
il sait où sont les dossiers.
Alors, on pourrait demander aussi à Jean-Michel Arnaud, mais Jean-Michel est contre l'idée.
Il n'a pas signé.
Il n'a pas signé.
Bon, c'est une pétition très ambiguë, hein, parce que tout le monde peut s'y reconnaître là-dedans. Hein. J'ai fait remarquer, parce que je suis au conseil de surveillance de l'agence de développement, je leur ai fait
remarquer. Pourquoi c'est ambigu ? Tu nous expliques ?
En gros, elle dit, d'abord, c'est une pétition très courte. Hein, elle est, tu la lis en 30 secondes. Elle dit, pour le développement ferroviaire, le développement autoroutier, le développement routier.
Ah oui.
Tout le monde s'y retrouve. Alors, quand j'ai fait la remarque en disant, c'est vachement ambigu et c'est très large, ce qu'on m'a répondu, et notamment le directeur de la dette, m'a dit, mais oui, mais pour que tout le monde puisse la signer, d'ailleurs, une pétition que j'ai signée, il fallait qu'elle soit comme ça, quoi, qu'elle soit assez floue.
Qu'elle fasse plaisir à tout le monde.
Mais après, le terme de désenclavement, je l'ai déjà dit, n'est pas vraiment porteur pour notre département.
Moi, je crois que le fait que Jean-Marie Bernard, avec à côté de lui Pascal Boyer, on ne peut pas dire que ce soit les meilleurs amis du monde, avec à côté de lui Joël Giraud, avec à côté de lui l'ensemble des acteurs, toute sensibilité, soit capable de porter ce dossier au ministère des Transports ensemble, c'est bien.
Mais ça paraît évident.
Très franchement, le maire de Tallard, qui pour des raisons de petite politique politicienne, ne va pas la signer, je ne suis pas sûr qu'il se grandisse. Voilà. Après, entre vous et moi, Tallard, c'est loin de Briançon, ça ne me dérange pas. Mais enfin, je crois pas que dans l'attitude qu'il a, consistant à essayer de descendre du matin au soir l'activité du conseil départemental, dont il a été le premier vice-président, dont il s'est présenté contre le président du conseil départemental à l'école. Enfin bref,
accepte l'idée qu'on ne soit pas d'accord avec toi.
Quand on a, mais je l'accepte bien volontiers, je lui reconnais, mais je suis pas persuadé qu'il se grandisse beaucoup. Voilà.
C'est
mais
de
je
la politique.
Je lui transmets mes salutations bien briançonnaises et bien amicales.
Eh ben justement, c'est de la politique. Et là, j'ai un sujet parce que là, on va sortir du département parce que là, dites donc. On est resté un bon moment, c'est très bien, hein, c'est pas désagréable du tout. Rebondissement sur l'affaire Benalla, dites donc.
Il y avait longtemps.
Dites donc, les enfants, guerre est ouverte entre le Sénat et l'Élysée.
Merde, c'est pas Mediapart ce coup-ci.
Non.
D'habitude, tu en veux à Mediapart.
Mais si, c'est Mediapart.
Ah bon ?
Mais bien sûr.
À la base.
Ils ont encore ressorti un truc aujourd'hui.
Non.
Le feuilletonnage, c'est la spécialité de Mediapart.
Mais oui, il faut bien qu'ils
c'est
vendent.
C'est le voici de la politique.
Il faut bien qu'ils vendent leur journal.
Alors donc, évidemment, il faut bien que Edoui, il ait des personnes.
Mais tu te rends compte, le Sénat.
Qui autour de cette table est abonné ?
Moi ?
Ouais.
Eh ben oui.
Non mais sors. Et
super articles.
Je suis abonné qu'à Montagne Magazine et Vertical. Je suis désolé.
Ben oui.
Alors, moi c'est chasse passion. Hein.
Attention, c'est important. On déconne là, mais bon, le Sénat a saisi la justice pour Alexandre Benalla, Vincent Kras. Bon, ça on le savait. Ouais. Mais trois autres proches du président, s'il
vous
plaît.
Notre ancien préfet.
Si les deux premiers sont connus du grand public hein, depuis le temps qu'on en parle, les trois autres plutôt beaucoup moins.
Ouais.
Bon, nous on le connaît évidemment, Patrick Stroda. Oh, j'ai du mal. Stroda, c'est le Z qui me bloque.
Ouais.
Patrick Dircap de Macron, on est d'accord. Alexis Kohler, lui, c'est le secrétaire général de l'Élysée. Et Lionel Lavergne, chef du groupe de sécurité de la présidence de la République. Ils sont tous les trois soupçonnés de parjure.
Ben oui, c'est grave. Hein.
Ben oui, c'est grave.
Et c'est le Sénat qui a décidé ça. Hein.
Oui, alors, j'ai écouté un petit peu les réactions.
De droite et de gauche.
Ben oui, Enfin, surtout de droite.
J'ai écouté.
D'un autre côté, ils se sont peut-être mis ensemble. Effectivement, tu n'as pas tort. La droite et la gauche, ils se sont mis ensemble contre les autres.
Hein? C'est comme Chris Kelly, From.
C'est comme, c'est ça. Exactement.
Deuxième joker.
C'est politique.
Non mais sur ce sujet.
Sur ce sujet, est-ce que c'est bien effectivement que le Sénat aille au bout du bout du bout du bout de cette affaire?
Moi j'ai eu la chance et l'honneur de travailler beaucoup au Sénat puisque quand je travaillais pour Patrick Ollier, il était ministre des Relations avec le Parlement, et j'étais chargé du suivi du Sénat et notamment de la commission des finances. Le Sénat est une institution qui est souvent décriée, mais dans laquelle on travaille bien. Vraiment. Et le vrai travail parlementaire, en réalité, peu de gens le savent, mais il se fait au Sénat. À l'Assemblée nationale, on est sous le feu de la vie médiatique du matin au soir. Au Sénat, beaucoup moins. Et il y a des parlementaires surtout. Et d'ailleurs, ça pose la question du cumul des mandats. En tout cas, intellectuellement, c'est intéressant. Vous avez des parlementaires au Sénat qui sont tous des maires, des anciens conseillers départementaux ou généraux, des anciens conseillers généraux, qui connaissent par cœur l'ensemble des procédures administratives et qui savent exactement comment ça se passe quand quelqu'un rentre dans une mairie déposer un dossier. Ce sont de bons législateurs, première chose. Deuxième chose, moi j'ai lu les réactions de la majorité ce matin. Je crois que c'est Sacha Houlier, la députée de la majorité, qui disait « il faudra traiter le problème du Sénat ». Enfin, déjà, je trouve ça terrifiant. Ouais. Et je voudrais quand même leur rappeler que le dernier président de la République qui a voulu s'attaquer au Sénat et qui a voulu le supprimer a eu un sort funeste. Et en l'occurrence, vous vous souvenez que c'était le général de Gaulle. Mais très franchement, de la part de la majorité, aller critiquer le travail d'une commission d'enquête qui, de manière autonome, s'aperçoit, puisque tout simplement il y a eu des révélations dans les médias avec cette bande audio, que des membres du cabinet du président de la République ont menti devant une commission d'enquête et qui saisissent la justice de ça, enfin ça étonne qui? Et derrière, on nous parle de la République exemplaire, de machin, de trucs. Ben moi, je me souviens de Macron, d'ailleurs, qui disait, j'ai revu ça ce matin, ça m'a beaucoup amusé. Il y a 6 mois, il disait, avec moi, c'est pas la République des fusibles. Quand on a un problème, on vire pas un haut fonctionnaire. Bon, ben, je trouve qu'il n'y a pas... Pour le préfet de police de Paris, ça n'a pas dû s'appliquer.
Il disait, venez me chercher.
Exactement. Je trouve ça très franchement terrifiant. Et je vais vous le dire, je suis le premier à dire quand ils font des choses bien, parce que je trouve qu'il y a des choses bien qui sont faites par ce gouvernement, qui a un super ministre des Finances, faut-il le rappeler. Je dis ça avec un sourire parce que c'est mon ami.
Mais cela étant dit,
très franchement, là-dessus, je trouve que c'est lamentable et que ça foule aux pieds les plus élémentaires équilibres de notre constitution et de l'équilibre des pouvoirs.
Moi, j'ai envie de dire, comme je dis d'habitude, laissons faire la justice.
Ouais.
La justice est saisie, que la justice fasse son boulot.
Vous ne trouvez pas qu'il y a une petite union là entre nous deux là?
Mais moi, je suis d'accord avec toi.
Ce soir, on fait une émission. On trouve des équilibres politiques improbables.
Là, ça pue un peu entre nous.
L'enquête du Sénat.
Après, c'est Roger Didier qui va me faire la gueule.
Non, l'enquête du Sénat, c'est une enquête remarquable. Remarquable. Il s'agit pas de ils ont vachement bien bossé. Ils ont fait un boulot énorme.
Par contre, la commission
des finances de l'Assemblée, ça a été la cata complète, quoi. Et l'enquête n'est pas allée au bout, hein. Elle a capoté.
Alors, une nouvelle affaire, hein, le pauvre Édouard Philippe, vraiment, en ce moment, il n'est pas épargné, hein, le pauvre gamin. Macron qui fait du ski pendant que les Champs-Élysées brûlent. Bon, ça, c'est pas de bol. Castaner qui roule des pelles en boîte de nuit.
En fait, il avait deux... en fait, Macron...
C'est pas de bol
non mais
sans
déconner, Macron, il a deux pistes.
Ouais.
Soit
la
piste de danse ou la piste de ski.
Ouais. Mais
ou la piste aux étoiles.
Dans les deux cas, elle est noire. Hein, dans les deux cas. Alors, nous avons donc Castaner qui roule des pelles en boîte. Et puis, t'as Lemonnier, le successeur d'Edouard Philippe au Havre, qui lui balance des photos de sa bite un petit peu partout. Et donc,
c'est quand même. Non, mais c'est franchement incroyable.
Il faut noter qu'on aura fait 56 minutes d'émission sérieuse aujourd'hui.
Ah, ouais, exactement. C'est quand même pas mal.
Non, mais c'est sérieux parce que c'est vrai. On n'invente pas ce que tu es en train de dire.
Oui.
Alors, moi, j'y crois à peine. Hein.
C'est fou.
T'as pas vu sa bite?
C'est déçu.
Non, je sais pas où il habite.
Comment on l'a dit la semaine dernière?
La doute t'habite.
Alors, la semaine dernière, on avait dit ça.
On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles.
Alors, s'il vous plaît, redevenons sérieux quelques instants. C'était uniquement pour dire, voilà, c'est plus un gouvernement, là, c'est un film comique, là, quand même, depuis un certain temps. Bon, on plaisante, mais bon, cette histoire-là qui est arrivée, J'ai trouvé ça un peu dégueulasse de la part de la bonne femme qui a donc été harcelée, soi-disant, par lui, parce que pour l'instant, on n'en sait rien. Hein. Mais si, je ne sais pas, si on est harcelé par quelqu'un, est-ce qu'on on va porter plainte normalement? On est d'accord, on porte plainte dans un commissariat pour harcèlement. Est-ce qu'on est obligé de balancer l'info de balancer l'info et les photos à la presse.
Ça dépend combien ça rapporte.
Je posais la question, parce que le Monnier soit un gros dégueulasse, c'est une chose.
C'est pas grave,
on est d'accord. Mais je trouve que.
Je vais vous dire de mon point de vue, tu sais jamais comment une femme peut réagir vis-à-vis de ça. Non, mais vraiment, elle peut se sentir menacée. Je veux pas porter de jugement moral là-dessus.
Moi non plus, je prendrai pas de jugement. Mais pour envoyer la photo de ton machin à une bonne femme, c'est que
tu dois quand même. Il y a tellement de femmes dans ce pays
assez proche d'elle.
Il y a tellement de femmes dans ce pays qui sont harcelées et qui n'osent pas le dire. Que très franchement, qu'elle aille le dire à la presse, à la police ou à qui que ce soit, eh ben franchement, je crois qu'elle a bien fait.
Parce qu'on ne peut pas accepter
qu'une femme, quel que soit son âge, et surtout une jeune femme d'ailleurs, soit harcelée ou menacée ou provoquée dans ce pays.
Moi, je suis d'accord avec Arnaud. Ça fait deux fois qu'on est d'accord.
Toi, tu vas être sur ma plaquette, hein, je te le dis.
Soyons sérieux sur le sujet. Vous n'êtes pas sérieux du tout. Je veux dire.
Mais il a fait un selfie avec sa bite, sans déconner.
Tu ferais ça, toi?
Si je fais ça, j'envoie ça à quelqu'un que je connais très bien.
Mais c'est pour ça que
ça me paraît quand même très étonnant. Arnaud, sérieusement.
Oui, mais elle a fait à plusieurs.
Lorsque tu le fais, tu envoies à quelqu'un que t'aimes bien.
Tu sais ce que disait Edouard Balladur. Je vous demande de vous arrêter.
J'avais mieux parce que j'avais sorti ça pour tout à l'heure. Ça n'a pas de rapport, mais quoique.
Le pouvoir d'achat, c'est comme la température.
Non. Si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur, le travailleur français sur le palier, il devient fou.
Voilà. Alors j'ajoute que je fais des très bonnes imitations de Jacques Chirac, mais je les garde pour les dîners mondains à Briançon.
Oh, c'est pas possible. Il nous reste quelques minutes. Il nous reste 5 minutes. Oh. Est-ce que quelqu'un a regardé le grand débat de BFM mercredi soir?
Tu peux passer le jingle, s'il te plaît?
Moi, j'ai regardé des passages, mais en reprise, quoi.
Tu as regardé le résumé.
C'est pas ce qui fait révéler.
En une minute.
Oui.
En une minute, tu as regardé le résumé.
J'ai trouvé qu'il y en a un qui avait fait un festival.
Et qui?
Mélenchon.
Mercredi soir, j'étais en train de monter en ski de rando de nuit au col d'Isoire pour aller manger au refuge Napoléon, donc je ne pouvais pas.
Fais attention au terme que tu emploies quand tu commences. Mercredi soir, j'étais en train de monter. Si je coupe l'émission, attention, tu sais ce que ça peut faire.
Et qu'en plus, il nous envoie un selfie, on est fous.
Il va nous faire un selfie.
Au pire, ce sera avec mes skis et mes pots de phoque.
Donc ça va alors, c'est pas mal.
Quoi qu'avec des pots de phoque.
Alors, cela dit.
Je vous demande de vous arrêter.
Il y avait Guérini, il y avait Bayrou, il y avait Le Pen, il y avait Wauquiez, il y avait Mélenchon, il y avait Faure. Ils ont fait kiffer 832 000 Français devant BFM. Bon, c'est pas mal pour une chaîne info. Mais au niveau national, c'est quand même assez pathétique. 3,9 de part d'audience. C'est-à-dire que les autres qui étaient devant leur poste, c'est-à-dire 96,1%.
Ils ont regardé quoi?
Ils ont regardé autre chose. Pour comparaison. Le débat à 11, vous souvenez, au présidentiel, sur BFM et LCI, avait attiré 6 300 000 téléspectateurs. 32% de part d'audience.
Ouais, mais c'est pas la même période aussi.
C'est pas la même élection.
On est d'accord. Mais bon, on est quand même très loin de. On sent qu'il y a un intérêt qui est quand même assez moindre aujourd'hui sur les européennes.
Oui, malheureusement.
Bah oui, c'est toi qui le dis à chaque fois.
Ben oui, parce que c'est important. Il faut que les gens aillent voter aux européennes. Ils vont avoir le choix.
Est-ce qu'on a avancé, une dernière question, sur le Brexit?
Ils ont repoussé. Ils ont eu un accord de 30 jours.
Ils ont intérêt de repousser.
Intérêt pour eux, mais pas pour nous.
Il y a une deadline au 12 avril. Pourquoi? Parce que le 12 avril, c'est la date limite pour convoquer, pour les Britanniques, le décret de convocation des élections.
Pour les élections.
Donc le 12 avril, ils choisissent s'ils convoquent ou pas les élections, et s'ils ne les convoquent pas, ils sortent, et sans accord. Donc voilà, à un moment, écoutez, il faut que l'Europe
se fasse
respecter. Enfin, si vous voulez que les gens aient voté aux européennes, que l'Europe commence par se faire un peu respecter.
D'accord. On est d'accord.
C'est bon.
Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'ils se sont fait vraiment rouler dans la farine, quand même, les Britanniques.
C'est comme un divorce avec une femme. Vous pouvez le faire à l'amiable ou pas, vous choisissez.
Là, c'est bienvenu en terre inconnue.
C'est exactement
Franchement, on ne sait pas ce qu'il va devenir.
D'ailleurs, il y a une émission.
Même l'Europe n'en sortira pas
grandie. C'est ça.
D'une
c'est
part,
ça
qu'on dit. Mais en termes économiques, ça va pas être simple non plus.
J'ai vu qu'il y avait une émission qui allait sortir d'ailleurs sur le Kera.
Oui.
Vous avez vu?
Bienvenue en terre inconnue.
Oui. Alors ça, j'ai trouvé ça quand même à double tranchant. Hein. Ça reste mon avis. Déjà, on a du mal, nous, à sortir de notre désenclavement. Il y a une émission à la télé qui nous balance Bienvenue en terre inconnue. Le Kera, si bah vous voulez, non, ça calme un peu quand même.
Tu te prends
enfin, je sais pas ce que vous en pensez.
Si tu vas sur Abriès ou Ristolas, dès que tu as passé la montagne qui s'écroule, tu es très très bien.
C'est Bienvenu en terre inconnue
oui,
quand même.
Oui, mais c'est la faute à qui?
Ben c'est la faute, je sais pas.
On n'arrête pas de parler de désenclavement. Oui. Donc les gens, ils disent, ils sont enclavés.
Ah ouais. Non, mais ce qui est terrible, c'est que la vraie émission Bienvenue en terre inconnue, ils vont dans des tribus d'Amérique du Sud.
Tout à fait.
C'est ça. Inconnue.
Voilà, ils vont au Kera quand même.
Mais tu vois un peu le parallèle? Non, alors non, moi je trouve que c'est très bien parce qu'on va avoir une belle émission certainement.
On a fait une belle émission, je voudrais juste pas me fâcher avec mes amis du Kera.
Mais non,
pendant les deux dernières minutes.
Mais non, mais arrête. Moi je veux pas me fâcher avec mes amis du Kera non plus. Je dis seulement.
Moi sinon c'est... Marcel Cana, il arrive et m'égorge demain matin.
Marcel Cana, on l'a vu qui vient.
Non
pas.
Mais attendez. Moi qui vais souvent, moi qui suis de langue à Seillac.
Que tu aimes bien.
Que j'adore.
Mais moi aussi.
Où je me régale. Voilà. J'ai pas envie que. Qui est 100 000 personnes qui viennent à Seillac faire du ski.
Et ben voilà, nous en sommes.
Mais s'ils viennent à Serre-Chevalier, ça ne dérange pas.
Les ben on les envoie.
Et voilà, voilà et pourquoi voilà. Aujourd'hui notre robots. Département voilà. Est complètement enclavé.
Et j'ai pas peur de le dire.
À cause d'une gauche molle écologique.
Non, mais le Kera est fort. Le Kera, il faut le mériter. C'est pas pareil.
Absolument.
Michel, tu as raison.
Merci Michel.
Moi j'ai souffert.
Bravo.
Ces routes.
Cela étant dit, si vous voulez, je vous les statistiques de fréquentation au sommet du col d'Izoard, vous allez voir qu'il y a du monde qui passe dans le Kera et qui passe voir nos cols mythiques et la beauté de nos paysages. Ils ont bien raison.
En moto.
Patrick Faure, Jean-Claude Hérault, Michel Roussel, mes trois cocaniens de ce soir, merci d'être là. Notre invité Arnaud Murgia, merci d'avoir joué le jeu.
Merci à vous.
Et puis, on se retrouve la semaine prochaine.
Avec Gérard.
Je vous avais dit.
Avec Romain.
C'est pas
Romain qui
vient. Non, mais il est de gauche, maintenant, on le fait pas venir.
C'est Rémi.
Non.
Nous serons avec Rémi Roux.
Ah, un vrai mec de gauche.
D'accord. De l'Argentière.
Absolument. Nous serons avec
Rémi. Eh bien, vous le saluez de ma part.
Passez un bon dimanche. Passez un très bon dimanche. Et à la semaine prochaine. Ciao tout le monde.
Ciao.